Honoré de Balzac, Illusion perdue. David attendait, avec une vague inquiétude, la conférence avec les Cointet. Ce n'était ni la discussion de ses intérêts, ni celle de l'acte à faire qui l'occupait, mais l'opinion que les fabricants allaient avoir de ses travaux. Il se trouvait dans la situation de l'auteur dramatique devant ses juges. L'amour-propre de l'inventeur et ses anxiétés au moment d'atteindre au but, faisait pâlir tout autre sentiment. Enfin, sur les 7 heures du soir, à l'instant où Madame la Comtesse Châtelet se mettait au lit sous prétexte de migraine et laissait faire à son mari les honneurs du dîner, tant elle était affligée des nouvelles contradictoires qui couraient sur Lucien, les Cointet, le gros et le grand, entrèrent avec Petit Claud chez leurs concurrents, qui se livraient à eux, pieds et poings liés. On se trouva d'abord arrêté par une difficulté préliminaire. Comment faire un acte de société sans connaître les procédés de David? Et les procédés de David divulgués, David se trouvait à la merci des Cointet. Petit Claud obtint que l'acte serait fait auparavant. Le grand Cointet dit alors à David de lui montrer quelques-uns de ses produits, et l'inventeur lui présenta les dernières feuilles fabriquées en garantissant le prix de revient. « Eh bien, voilà, dit Petit Claud, la base de l'acte toute trouvée. Vous pouvez vous associer sur ces données-là, en introduisant une clause de dissolution, dans le cas où les conditions du brevet ne seraient pas remplies à l'exécution en fabrique. « Autre chose, monsieur, dit le grand Cointet à David, autre chose est de fabriquer en petit dans sa chambre, avec une petite forme, des échantillons de papier, ou de se livrer à des fabrications sur une grande échelle. Jugez-en par un seul fait. Nous faisons des papiers de couleur. Nous achetons, pour les colorer, des parties de couleurs bien identiques. Ainsi, l'indigo, pour bleuter nos coquilles, est pris dans une caisse dont tous les pains proviennent d'une même fabrication. Eh bien, nous n'avons jamais pu obtenir 2 cuvées de teinte pareilles. Il s'opère dans la préparation de nos matières des phénomènes qui nous échappent. La quantité, la qualité de pâte, change sur le champ toute espèce de question. Quand vous teniez dans une bassine une portion d'ingrédients que je ne demande pas à connaître, vous en étiez le maître. Vous pouviez agir sur toutes les parties uniformément, les lier, les malaxer, les pétrir à votre gré, leur donner une façon homogène. Mais qui vous a garanti que sur une cuvée de 500 rames, il en sera de même et que vos procédés réussiront? David, Ève et Petit Claud se regardèrent en se disant bien des choses par les yeux. Prenez un exemple qui vous offre une analogie quelconque, dit le grand Cointet après une pause. Vous coupez environ 2 bottes de foin dans une prairie. Et vous les mettez bien serrés dans votre chambre, sans avoir laissé les herbes jeter leur feu, comme disent les paysans. La fermentation a lieu, mais elle ne cause pas d'accident. Vous appuieriez-vous de cette expérience pour entasser 2000 bottes dans une grange bâtie en bois? Vous savez bien que le feu prendrait dans ce foin et que votre grange brûlerait comme une allumette. Vous êtes un homme instruit, dit Cointet à David. Concluez. Vous avez en ce moment coupé 2 bottes de foin, et nous craignons de mettre feu à notre papeterie en serrant 2000. Nous pouvons, En d'autres termes, perdre plus d'une cuvée, faire des pertes, et nous trouver avec rien dans les mains après avoir dépensé beaucoup d'argent. David était atterré. La pratique parlait son langage positif à la théorie, dont la parole est toujours au futur.
Et du diable, si je signe un pareil acte de société !
S'écria brutalement le gros Cointet.
Tu perdras ton argent si tu veux, Boniface. Moi, je garde le mien.
J'offre de payer les dettes de M. Séchard, et 6 000 francs.
Encore 3 000 francs en billets, dit-il en se reprenant, et à 12 et 15 mois.
Ce sera bien assez des risques à courir.
Nous avons 12 000 francs à prendre sur notre compte avec Métivier.
Cela fera 15 000 francs.
Mais c'est tout ce que je paierai le secret pour l'exploiter à moi tout seul.
Ah, voilà cette trouvaille dont tu me parlais, Boniface.
Eh bien, merci. Je te croyais plus d'esprit.
Non, ce n'est pas là ce qu'on appelle une affaire.
La question pour vous, dit alors Petit Claud sans s'effrayer de cette sortie, se réduit à ceci. Voulez-vous risquer 20 000 francs pour acheter un secret qui peut vous enrichir?
Mais messieurs, les risques sont toujours en raison des bénéfices. C'est un enjeu de 20 000 francs contre la fortune.
Le joueur met 1 louis pour en avoir 36 à la roulette, mais il sait que son louis est perdu.
Faites de même.
Je demande à réfléchir, dit le gros Cointet. Moi, je ne suis pas aussi fort que mon frère. Je suis un pauvre garçon tout rond qui ne connaît qu'une seule chose. Fabriquer à 20 sous le paroissien que je vends 40 sous.
J'aperçois dans une invention qui n'en est qu'à sa première expérience une cause de ruine. On réussira une première cuvée, on manquera la seconde, on continuera, on se laisse alors entraîner, et quand on a passé le bras dans ces engrenages-là, le corps suit.
Il raconta l'histoire d'un négociant de Bordeaux ruiné pour avoir voulu cultiver les landes sur la foi d'un savant. Il trouva 6 exemples pareils autour de lui, dans le département de la Charente et de la Dordogne, en industrie et en agriculture. Il s'emporta, ne voulut plus rien écouter. Les objections de Petit Claud accroissaient son irritation au lieu de le calmer.
« J'aime mieux acheter plus cher une chose plus certaine que cette découverte,
et n'avoir qu'un petit bénéfice, dit-il en regardant son frère.
Selon moi, rien ne paraît assez avancé pour établir une affaire,
s'écria-t-il en terminant.
Enfin, vous êtes venu ici pour quelque chose, dit Petit Claud.
Qu'offrez-vous ? De libérer M. Séchard, et de lui assurer, en cas de succès, 30% de bénéfice,
répondit vivement le gros Cointet.
« Eh, monsieur, dit Ève, avec quoi vivrons-nous pendant tout le temps des expériences ? Mon mari a eu la honte de l'arrestation. Il peut retourner en prison. Il n'en sera ni plus ni moins, et nous paierons nos dettes. »
Petit Claud mit un doigt sur ses lèvres en regardant Ève.
« Vous n'êtes pas raisonnable, dit-il aux deux frères. Vous avez vu le papier. » Le père Séchard vous a dit que son fils, enfermé par lui, avait, dans une seule nuit, avec des ingrédients qui devaient coûter peu de choses, fabriqué d'excellents papiers. Vous êtes ici pour aboutir à l'acquisition. Voulez-vous acquérir, oui ou non ?
Tenez, dit le grand Cointet, que mon frère veuille ou ne veuille pas,
je risque, moi, le paiement des dettes de M. Séchard. Je donne 6 000 francs argent comptant, et M. Séchard aura 30% dans les bénéfices. Mais écoutez bien ceci. Si, dans l'espace d'un an, il n'a pas réalisé les conditions qu'il posera lui-même dans l'acte, il nous rendra les 6 000 francs. Le brevet nous restera, nous nous en tirerons comme nous pourrons.
Es-tu sûr de toi ? Dit Petit Claud en prenant David à part.
« Oui,
dit David, qui fut pris à cette tactique des deux frères et qui tremblait de voir rompre au grand Cointet cette conférence d'où son avenir dépendait. « Eh bien, je vais aller rédiger l'acte, » dit Petit Claud au Cointet et à Ève. « Vous en aurez chacun un double pour ce soir. Vous le méditerez pendant toute la matinée. Puis, demain soir, à 4 heures, au sortir de l'audience, vous le signerez. Vous, messieurs, retirez les pièces de Métivier. Moi, j'écrirai d'arrêter le procès en cour royale et nous nous signifierons les désistements réciproques. » Voici quel fut l'énoncé des obligations de Séchard. Entre les sous-signés, etc., M. David Séchard fils, imprimeur à Angoulême, affirmant avoir trouvé le moyen de coller également le papier en cuve et le moyen de réduire le prix de fabrication de toute espèce de papier de plus de 50% par l'introduction de matière végétale dans la pâte, soit en les mêlant aux chiffons employés jusqu'à présent, soit en les employant sans adjonction de chiffon, une société pour l'exploitation du brevet d'invention, à prendre en raison de ces procédés, est formée entre M. David Séchard fils et messieurs Cointet et frères, aux clauses et conditions suivantes. Un des articles de l'acte dépouillait complètement David Séchard de ses droits dans le cas où il n'accomplirait pas les promesses énoncées dans ce libellé soigneusement fait par le grand Cointet et consenti par David. En apportant cet acte le lendemain matin à 7h30, Petit Claud apprit à David et à sa femme que Cérizet offrait 22 000 francs comptant de l'imprimerie. L'acte de vente pouvait se signer dans la soirée. « Mais, dit-il, si les Cointet apprenaient cette acquisition, ils seraient capables de ne pas signer votre acte, de vous tourmenter, de faire vendre ici. « Vous êtes sûr du paiement ?» dit Ève, étonnée de voir se terminer une affaire de laquelle elle désespérait et qui, 3 mois plus tôt, eut tout sauvé. « J'ai les fonds chez moi, » répondit-il nettement. « Mais c'est de la magie, » dit David en demandant à Petit Claud l'explication de ce bonheur. « Non, c'est bien simple. Les négociants de L'Houmeau veulent fonder un journal, » dit Petit Claud. « Mais « je me le suis interdit !» s'écria David. « Vous ? Mais votre successeur ! D'ailleurs, reprit-il, ne vous inquiétez de rien. Vendez, empochez le prix et laissez Cérizet se dépêtrer des clauses de la vente. Il saura se tirer d'affaire. « Oh oui !» dit Ève. « Si vous vous êtes interdit de faire un journal à Angoulême, reprit Petit Claud, les bailleurs de fonds de Cérizet le feront à L'Houmeau. » Ève, éblouie par la perspective de posséder 30 000 francs, d'être au-dessus du besoin, ne regarda plus l'acte d'association que comme une espérance secondaire. Aussi, monsieur et madame Séchard cédèrent-ils sur un point de l'acte social qui donna matière à une dernière discussion. Le grand Cointet exigea la faculté de mettre en son nom le brevet d'invention. Il réussit à établir que, du moment où les droits utiles de David étaient parfaitement définis dans l'acte, le brevet pouvait être indifféremment au nom d'un des associés. Son frère finit par dire « C'est lui qui donne l'argent du brevet, qui fait les frais du voyage, et c'est encore 2 000 francs. Qu'il le prenne en son nom ou il n'y a rien de fait. » Le Loup-Cervier triompha donc sur tous les points. L'acte de société fut signé vers 4h30. Le grand Cointet offrit galamment à madame Séchard 6 douzaines de couverts à filets et un beau châle ternaux en manière d'épingle pour lui faire oublier les éclats de la discussion, dit-il. À peine les doubles étaient-ils échangés, à peine cachant
Avait-il fini de remettre à Petit Claud les décharges et les pièces, ainsi que les trois terribles effets fabriqués par Lucien, que la voix de Kolb retentit dans l'escalier après le bruit assourdissant d'un camion du bureau des messageries qui s'arrêta devant la porte.
« Montam, Montam, 15 000 francs !» cria-t-il. « Envoyé de Poitiers, en frais argent, par Ménessier Lucien !»«
15 000 francs !» s'écria Ève en levant les bras.
« Oui, madame, » dit le facteur en se présentant. « 15 000 francs apportés par la diligence de Bordeaux qui en avait sa charge. Allez, j'ai là deux hommes en bas qui montent les sacs. Ça vous est expédié par monsieur Lucien Chardon de Rubempré. Je vous monte un petit sac de peau dans lequel il y a pour vous 500 francs en or et vraisemblablement une lettre. »
Ève crut rêver en lisant la lettre suivante. « Ma chère sœur, voici 15 000 francs. Au lieu de me tuer, j'ai vendu ma vie. Je ne m'appartiens plus. Je suis le secrétaire d'un diplomate espagnol. Je recommence une existence affreuse. Peut-être aurait-il mieux valu me noyer. Adieu. David sera libre et, avec 4 000 francs, il pourra sans doute acheter une petite papeterie et faire fortune. Ne pensez plus, je le veux, à votre pauvre frère, Lucien. »
« Oh, il est dit !» s'écria madame Chardon, qui vint voir entasser les sacs, « que mon pauvre fils sera toujours fatal, comme il l'écrivait, même en faisant le bien. »
« Nous l'avons échappé, belle !» s'écria le grand Cointet quand il fut sur la place du Mûrier. Une heure plus tard, les reflets de cet argent auraient éclairé l'acte, et notre homme se serait effrayé. Dans 3 mois, comme il nous l'a promis, nous saurons à quoi nous en tenir. »
Le soir, à 7 heures, Cérizet acheta l'imprimerie et la paya, en gardant à sa charge le loyer du dernier trimestre. Le lendemain, Ève avait remis 40 000 francs au receveur général pour faire acheter, au nom de son mari, 2 500 francs de rente. Puis elle écrivit à son beau-père de lui trouver à Marsac une petite propriété de 10 000 francs pour y asseoir sa fortune personnelle. Le plan du grand Cointet était d'une simplicité formidable. Du premier abord, il jugea le collage en cuve impossible. L'adjonction de matières végétales, peu coûteuse à la pâte de chiffon, lui parut le vrai, le seul moyen de fortune. Il se proposa donc de regarder comme rien le bon marché de la pâte et de tenir énormément au collage en cuve. Voici pourquoi. La fabrication d'Angoulême s'occupait alors presque uniquement des papiers à écrire dits écus, poulets, écoliers, coquilles, qui, naturellement, sont tous collés. Ce fut longtemps la gloire de la papeterie d'Angoulême. Ainsi, la spécialité, monopolisée par les fabricants d'Angoulême depuis de longues années, donnait gain de cause à l'exigence des Cointets. Et le papier collé, comme on va le voir, n'entrait pour rien dans sa spéculation. La fourniture des papiers à écrire est excessivement bornée, tandis que celle des papiers d'impression, non collés, est presque sans limite. Dans le voyage qu'il fit à Paris pour y prendre le brevet à son nom, le grand Cointet pensait à conclure des affaires qui détermineraient de grands changements dans son mode de fabrication. Logé chez Métivier, Cointet lui donna des instructions pour enlever, dans l'espace d'un an, la fourniture des journaux aux papetiers qui l'exploitaient, en baissant le prix de la rame à un taux auquel nulle fabrique ne pouvait arriver, et promettant à chaque journal un blanc et des qualités supérieures aux plus belles sortes employées jusqu'alors.
Comme les marchés des journaux sont à terme, il fallait une certaine période de travaux souterrains avec les administrations pour arriver à réaliser ce monopole. Mais Cointet calcula qu'il aurait le temps de se défaire de ses chars pendant que Métivier obtiendrait des traités avec les principaux journaux de Paris, dont la consommation s'élevait alors à 200 rames par jour. Cointet intéressa naturellement Métivier, dans une proportion déterminée, à ses fournitures, afin d'avoir un représentant habile sur la place de Paris et ne pas y perdre du temps en voyage. La fortune de Métivier, l'une des plus considérables du commerce de la papeterie, a eu cette affaire pour origine. Pendant 10 ans, il eut, sans concurrence possible, la fourniture des journaux de Paris. Tranquille sur ses débouchés futurs, le grand Cointet revint à Angoulême assez à temps pour assister au mariage de Petit Claud, dont l'étude était vendue et qui attendait la nomination de son successeur pour prendre la place de M. Milot, promise au protégé de la comtesse Châtelet. Le second substitut du procureur du roi d'Angoulême fut nommé premier substitut à Limoges, et le garde des Sceaux envoya un de ses protégés au parquet d'Angoulême, où le poste de premier substitut vaqua pendant 2 mois. Cet intervalle fut la lune de miel de Petit Claud. En l'absence du grand Cointet, David fit d'abord une première cuvée sans colle qui donna du papier à journal bien supérieur à celui que les journaux employaient, puis une seconde cuvée de papier vélin magnifique, destiné aux belles impressions, et dont se servit l'imprimerie Cointet pour une édition du paroissien du diocèse. Les matières avaient été préparées par David lui-même en secret, car il ne voulut pas d'autres ouvriers avec lui que Kolb et Marion. Au retour du grand Cointet, tout changea de face. Il regarda les échantillons des papiers fabriqués, il en fut médiocrement satisfait. « Mon cher ami, dit-il à David, le commerce d'Angoulême, c'est le papier coquille. Il s'agit avant tout de faire de la plus belle coquille possible, à 50% au-dessous du prix de revient actuel. » David essaya de fabriquer une cuvée de pâte collée pour coquille, et il obtint un papier rêche comme une brosse et où la colle se mit en grumelot. Le jour où l'expérience fut terminée et où David tint une des feuilles, il alla dans un coin. Il voulait être seul à dévorer son chagrin. Mais le grand Cointet vint le relancer et fut avec lui d'une amabilité charmante. Il consola son associé. « Ne vous découragez pas, dit Cointet. Allez toujours. Je suis bon enfant et je vous comprends. J'irai jusqu'au bout. » « Vraiment, dit David à sa femme en revenant dîner avec elle, nous sommes avec de braves gens et je n'aurais jamais cru le grand Cointet si généreux. » Et il raconta sa conversation avec son perfide associé.